France Inter.
Moi, les gens qui traversent la porte et qui me disent je veux un vin nature, avant de me dire ce qu'ils attendent du vin, ça m'énerve. Et à l'opposé, les gens qui me disent ce qu'ils attendent et que je leur propose un vin qui est nature, qui vont me dire ah non, c'est nature, j'aime pas, ça m'énerve aussi.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec une joie sans cesse renouvelée que je vous retrouve pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, une heure pour décrypter notre époque avec le sourire, en zoomant sur ces expressions qu'on entend beaucoup mais qu'on ne comprend pas toujours. Et autant, vous le savez, étant d'une nature curieuse, dotée de centres d'intérêt éclectiques, tous les sujets qu'on aborde dans cette émission m'intéressent, autant ce n'est pas le cas de notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, qui a dû dernièrement beaucoup prendre sur lui pour préparer des émissions sur l'universalisme, le matrimoine, la charge mentale, l'afroféminisme et autres élucubrations wokistes de suceurs de graines germées, sick, fin de citation. Oui, dernièrement, mon Cyril était vraiment arrivé au bout d'un processus d'ouverture aux idées progressistes initiées depuis son arrivée sur Inter en provenance de Radio Courtoisie. Il avait atteint son plafond de verre de gauche. Hier, il m'a dit « Mathieu, ça suffit, faisons enfin cette émission dont on rêve, sur le thème qui nous tient à cœur. » Moi, je lui dis « Tu veux dire la justice restaurative ?» Non, le pinard. Me rétorquait mon Cyril à bout. Alors moi, je bois peu, hein, vous me connaissez, toujours prêt à tendre la main à un ami. Alors tant pis pour la justice restaurative, on fera ça lundi en 8 ou en 16. Place aujourd'hui à une émission spéciale dédiée non pas au pinard, qui n'est que moyennement un terme dans l'air du temps, mais à ce qui est beaucoup plus dans l'air du temps, le vin nature. Un vin sans sulfite, produit avec des méthodes douces, un vin qui ne fait pas bobo à la tête. Alors est-on face à une mode passagère ou bien le vin nature est-il un vrai tournant dans l'histoire de la viticulture? La réponse de Cyril étant non. Pour nuancer ce verdict, on va recevoir un des plus fins palais de Belgique. Co-auteur du célèbre guide des meilleurs vins de France, il est intraitable. Une fois dans un restaurant gastronomique, un sommelier certainement débutant s'est permis de lui proposer un vin nature. Sa réaction est célèbre.
Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets.
Zoom Zoom Zen spécial vin nature, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors évidemment, c'était un extrait de cette arrivée près de chez vous qu'on vient d'entendre. Hein. Avec vous, le sommelier aurait été immédiatement licencié. Alors Olivier, vous êtes grand reporter, j'ai lu ça, à la Revue du Vin de France, un nouveau titre que vous avez négocié.
Dégustateur.
Dégustateur. Plus simplement. Dégustateur très averti. Est-ce qu'on peut espérer de vous un avis un peu plus nuancé que celui de Cyril sur cet engouement pour le vin nature?
Le petit sonore qu'il y avait au début me convient assez. C'est-à-dire que le problème, c'est que le vin nature aujourd'hui est devenu un sujet extrêmement clivant au sein de la communauté des amateurs de vin. Et il n'y a plus de juste milieu. En fait, soit on déteste de manière radicale, soit on en devient tellement fan qu'on est prêt à boire n'importe quoi. Au nom du fait qu'il soit tout simplement nature. Je pense qu'on va essayer de mettre un peu de pondération dans tout ça, d'un petit côté un peu plus objectif, peut-être.
Peut-être. Eux, Olivier, ils n'ont pas encore l'âge de boire de l'alcool, et pourtant, des photos d'eux circulent sur les réseaux où l'on peut les voir en nightclub fêtant les 70 ans du magazine Playboy, soirée à laquelle ils étaient invités car Manon avait bien connu Hugh Hefner. Et je peux vous dire que dans leurs mains, ce n'est pas un Jéroboam de cristalline. Manon Mariani, Quentin Lu, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Mathieu.
Là,
bonjour tout le monde.
J'avais envie de chanter, ouais.
Chanter votre bonjour aujourd'hui, pourquoi pas. Alors,
c'est peut-être la bouteille que j'ai apportée.
Ouais, c'est ça
qui commence déjà à infuser doucement. Alors, Quentin, le vin que vous préférez étant globalement celui que votre salaire de France Inter vous permet d'acheter, vous êtes un grand fan de vin nature. Je me souviendrai toujours de la tête de Cyril Lacarrière le jour où vous aviez ramené au bureau un petit Pinot de Nice de derrière les fagots. Cyril avait été obligé de se nettoyer la bouche à l'extril. Aujourd'hui, vous êtes allé à la rencontre des gens pour voir si, en dehors des snobs que nous sommes, l'engouement pour le vin nature se vérifie. Et pour, je dirais, complexifier les choses, vous avez essayé d'aller à Bordeaux.
Je repense à la tête de
Cyril Lacarrière, rédacteur en chef.
Lorsqu'il a goûté le Pinot de Nice, on aurait dit que je lui avais vendu une viande trop cuite. Et puis en parlant de ce sujet du vin, ce sacré
Cyril Lacarrière, rédacteur en chef,
m'a dit si t'allais au pays du pinard. Est-ce que cette terre viticole bordelaise regorge d'aficionados du vin nature? Qu'en pensent les cavistes girondins? On va partir pour un micro-trottoir complètement à la rue dans les ruelles pavées de Bordeaux sur une idée de
Cyril Lacarrière, rédacteur en chef.
Comme diraient nos amis de France 3 Paris.
Non, je vous embrasse.
On les embrasse.
De France qu'on embrasse évidemment. On plaisante. On a adoré ce reportage. À vos côtés, Olivier, une jeune journaliste timide qui aimerait que vous lui conseilliez une bonne bouteille, car ça y est, après des mois de disette affective, elle est en mesure de l'annoncer officiellement cet après-midi à l'antenne d'Inter. Elle est en pré-couple.
J'ai honte, mais vraiment.
Oui, Olivier, bienvenue dans le monde fascinant de la génération Y, où, après le célibat, mais avant le couple, il y a une étape intermédiaire. Les chrétiens appelaient ça le purgatoire. Eux, le pré-couple. C'est un peu la même chose, Manon.
Oui, c'est un peu la même chose. Enfin, je dois cette expression aux Marseillais, hein, je les embrasse. Hein. C'est dans les téléréalités qu'ils disaient ça.
Ah, d'accord. Ouais, ouais. C'est dans les Marseillais à Miami.
C'est le pré-couple en mode on a encore le droit de pécho des gens. Je ne dis pas que c'est mon cas.
Voilà.
C'est exclusif. Donc.
Votre ami qui nous écoute l'a bien noté.
Moi, je connais le pré-apéro.
Ça va de pair. Alors, Manon, chaque jour, vous nous permettez de rester à la page des réseaux sociaux que vous scannez pour nous aujourd'hui.
Les États-Unis sont en guerre avec TikTok, mais pas que. Des entreprises chinoises se retrouvent obligées de cacher leurs origines dans le pays car elles ont peur de se faire bannir. TikTok n'est peut-être que le commencement d'une vraie guerre technologique entre les deux pays.
Vers 16h30, quelle forme prendra aujourd'hui le quiz ? Cyril avait suggéré un jeu à boire. À la fin, on saute dans le ballon et le plus bourré des deux gagne. J'ai dit, on peut faire ça ou alors on peut aussi prendre les devants en démissionnant. Donc, on fera autre chose. En fin d'émission, Yann Marguet viendra nous dire s'il a un problème avec le vin nature. Olivier, une question très forte pour commencer, une question qui dérange, mais j'ai pas peur de vous la poser droit dans les yeux. Quel est le meilleur vin que vous avez goûté dans votre vie ?
Écoutez, c'est probablement la bouteille de Romane Conti 99 que vous aviez apportée en quittant Europe 1.
Non, ça suffit. C'est une très mauvaise question.
Absolument remarquable.
Mathieu, dis-vous, j'ai jamais entendu parler de
ça. Il était venu en Porsche.
Ça suffit. Face à vous, Olivier, celui qui est très agacé que vous soyez simplement notre invité et pas son meilleur ami. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
On n'a pas besoin de vous présenter, j'ai déjà donné deux, trois éléments qui permettent de cerner le personnage. Alors dites-nous Cyril, le vin nature, d'où ça sort ?
Pour une question comme ça, Mathieu, j'aurais pu vous refaire le coup de la flemme et quitter le studio. Oh là là. Le vin nature, ça ne m'intéresse pas. En boire, ça ne m'intéresse pas. En goûter, ça ne m'intéresse pas. D'où ça sort, ça ne m'intéresse pas. Mais comme vous me posez la question et qu'au fond je ne vous hais point, je vais vous répondre. Figurez-vous que la première fois que des hurluberlus ont parlé de vin nature, c'était au début du XXe siècle, les fameuses grandes grèves des ouvriers viticoles de 1903 et 1904. Ils voulaient quoi ces ouvriers ? Un vin produit uniquement à partir de jus de raisin et sans fabrication artificielle, un vin naturel, qu'ils disaient. Bon, c'était il y a 120 ans, à l'époque, pas tous bien câblés, donc je peux m'exprimer et pardonner. Mais c'est revenu. Et plus récemment encore, dans les années 50, c'est un certain Jules Chauvet qui relance cette idée saugrenue. Ça s'appelle le mouvement des vins naturels.
Mais alors Cyril, qui est donc ce Jules Chauvet ?
Jules Chauvet est un vigneron biologiste dans le Beaujolais. On le considère comme le père spirituel du vin naturel. À ses yeux, les levures chimiques, c'est le mal. Il prône une production du vin basée sur le respect de la vie des sols, sur l'utilisation d'engrais organiques, sur des vendanges à maturité optimale et le respect de la récolte avec le moins de modifications du raisin. La vigne, moins on la touche, mieux elle se porte. C'est signé Jules Chauvet. Il était visiblement en plein trip d'extra. Alors, le vin nature, est-ce mauvais ? Très mauvais, est-ce très très mauvais ? Franchement dégueulasse.
Cyril,
une hérésie de la gastronomie. C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Mais il y a des gens qui nous écoutent qui adorent ça, le vin nature.
C'est leur problème.
Mais non. Cyril, merci pour cette introduction à votre image subtile. Olivier Pouls, revenons un instant sur ce que vient de raconter quand même Cyril, la partie intéressante de ce qu'il a raconté, c'est-à-dire les à peu près 10 secondes de cette chronique. Ce Jules Chauvet, est-ce qu'il a vraiment révolutionné la manière de faire du vin ?
Il faut d'abord s'entendre sur la définition de ce qu'est le vin nature. Et croyez-moi, même les vignerons ont eu beaucoup de mal, à tel point qu'ils ne sont toujours pas encore complètement d'accord. Alors aujourd'hui, il y a des labels qui arrivent, il n'y a pas de réglementation encore très définie. Qu'est-ce que c'est qu'un vin nature, finalement ? Un vin nature, c'est un vin dans lequel il n'y a pas d'intrants. C'est-à-dire qu'en gros, on n'utilise que le jus du raisin pour faire du vin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Ben, un paquet d'autres produits, justement, qui sont à la disposition des œnologues.
Et ils font quoi, ces produits ? Si on les y a mis, c'est bien qu'il y avait une raison.
Il y a des dizaines de produits qui sont autorisés aujourd'hui dans l'œnologie moderne. Alors, ça va des correcteurs d'acidité, on en a parlé des levures, ça peut être de la gomme arabique, ça peut être des tanins, enfin, plein de choses qu'on va rajouter dans le vin pour lui donner un goût ou quelque chose qui soit plus proche de ce que demande le public. L'idée de ces vignerons nature, c'est de dire, on enlève tout ça, et notamment, un produit qui est la clé, finalement, la clé de voûte de tout ça, ce sont les sulfites. Alors, les sulfites dans le vin, à quoi ça sert ? Pourquoi on met du soufre dans le vin ?
À conserver plus longtemps le vin ?
Bah oui, parce qu'on a découvert, dès le 15e siècle, hein, ça date, les premières utilisations de sulfites, c'est le 15e siècle, quand on utilisait des sulfites dans le vin, eh bien, il voyageait mieux, il était plus propre, plus net, entre guillemets, en termes d'arôme. Le soufre, c'est un conservateur, c'est un antiseptique, et ça permet d'avoir des vins qui sont droits dans leurs bottes, avec sans arôme déviant, allons-nous dire.
Mais c'est pour ça aussi peut-être que ça marche aujourd'hui, c'est que ça va bien avec l'idée du local. Aujourd'hui, le vin naturel, on doit le prendre pas trop loin de chez nous.
Bah oui, mais le problème du vin, c'est qu'il faut aussi le faire voyager. Et l'un des grands problèmes avec les vins nature, c'est que ce sont des vins qui sont très instables. Mmh. Et donc, si vous avez des vins nature et que vous vous amusez à faire voyager une caisse de vin nature en plein été dans votre voiture sous le soleil, vous avez toutes les chances d'arriver, surtout si c'est du vin blanc qui est encore plus instable,
ah oui,
à arriver
ah,
avec... une espèce de... Non, parce que les tanins du vin rouge, d'accord, sont un tout petit peu antioxydants quand même. Et donc, vous arrivez avec du cidre.
Ah oui.
Alors, une première pause musicale, la consigne étant « Trouver des chansons en rapport avec l'univers du vin, mais moderne », Cyril avait proposé Raymond Souplex. Alors, on a cherché, hein, hélas, Raymond Souplex n'est pas encore en playlist France Inter. En attendant que cette erreur soit corrigée, voici plutôt Goldfrapp, « Oh là là » sur Inter. Oh là là. Boire avec modération, bien sûr, mais sans avoir plus jamais mal à la tête et en étant respectueux de l'environnement. Zoom aujourd'hui sur la folie du vin nature avec un journaliste spécialisé dans le vin, Olivier Pouls. Maintenant, on va passer à une question qui nous vient de Quentin, lui, qui me demandait en antenne, mais pourquoi le vin nature, ça sent toujours comme le slip de Cyril après un concert de U2? Pourquoi
c'est ce
côté olfactif un peu puissant, hein, du vin nature, d'où ça vient?
Alors, certains vins nature, pas tous les vins nature, mais certains vins nature. J'expliquais tout à l'heure que le soufre avait plusieurs vertus. Elles étaient antioxydantes et antiseptiques. Et ça permet notamment à un certain nombre de bactéries non désirables dans le vin de ne pas se développer. Et quand vous avez des vins rouges, par exemple, qui, comme vous le dites, sentent le slip, l'écurie, le cheval qui a un peu couru, enfin bref, tout ça, ça c'est dû à des bactéries qu'on appelle notamment les Brettanomyces, qui sont des bactéries qui se développent naturellement dans le vin, qu'on n'a pas envie d'avoir dans un monde de vin carré, droit, mais que les tenants du vin nature, finalement acceptent en se disant, c'est le vin qui vit, il est comme ça, il exprime ça, acceptons ces joyeux arômes. Moi, personnellement, je peux pas. Moi, un vin rouge,
oui, sans l'écurie,
ou un vin blanc qui sent le cidre ou le jus de pomme fermenté, ça me plaît pas.
Il faut, évidemment, je joue un peu la carte de la caricature, c'est aussi le côté un peu le pas de côté de notre émission, mais pour être sérieux une minute, le vin nature c'est pas non plus que des vins qui ont du goût de cidre. Deux chercheurs français, Olivier, ont comparé les notes obtenues souvent à l'aveugle par les vins nature, ceux produits en biodynamique et en agriculture conventionnelle. En France comme aux États-Unis, les deux premières catégories l'emportent. C'est donc un délit de sale gueule, le vin nature. Il y en a des très bons aussi.
Alors il y en a évidemment des très bons qu'on sait très bien maîtriser, ça peut être très intéressant. Il faut quand même se dire un truc, c'est que si on prend le top 50 des 50 plus grands vins du monde reconnus comme tels par les amateurs, les sommeliers, plébiscités depuis 30 ou 40 ans. Il n'y a pas un vin nature dedans.
Il n'y
en a pas un seul. Non, parce que les grands vins, qui sont des grands vins de terroir, qui sont des vins destinés à une longue garde, ont besoin d'un minimum de soufre, de sulfite, pour faire face aux assauts du temps. Sans aucun
et
sulfite.
Et pas seulement les assauts du temps, le temps bonifie les grands vins.
Le temps bonifie évidemment les grands vins. Donc, ne pas mettre de sulfite dans un vin, pourquoi pas? Mais dans ce cas, il faut pratiquement pas qu'il bouge. Chaque mouvement, les variations de température, ça va poser des problèmes.
On peut pas avoir une cave de vin nature.
On peut, mais alors il faut accepter de
boire très vite,
soit très vite, soit accepter un certain nombre de déviations. C'est moi quand je vais voir certains cavistes ou sommeliers ou restaurateurs férus de vin nature qui ne vivent que par ça aujourd'hui, et ils sont dans leur bistrot en plein été, il fait 30 degrés dehors, il fait 28 degrés à l'intérieur, il y a les bouteilles de vin nature qui sont debout derrière le comptoir. Non mais les vins ils travaillent et forcément vous avez des arômes déviants qui arrivent. Alors eux considèrent que c'est comme ça. C'est le vin, moi je déteste ça, je trouve qu'un vin ça doit sentir le fruit, ça doit sentir son terroir, ça ne doit pas sentir l'animal.
Est-ce que d'un point de vue business, le vin nature c'est la revanche des petits vignerons, des petits producteurs, ou en fait comme ça devient maintenant très courant le vin nature, les gros du secteur mettent la main dessus aussi?
Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, on expliquait tout à l'heure que c'est né dans le Beaujolais avec toute la mouvance de Jules Chauvet et puis un certain nombre de vignerons qui se sont revendiqués comme des héritiers, qui font d'ailleurs des choses plutôt pas mal et plutôt très maîtrisées en matière de vin nature. Il y a des vins nature qui sont tout à fait droits dans leurs bottes et qui aromatiquement sont remarquables. Je suis pas en train de dire que tous les vins nature sont mauvais, mais c'est vrai que sont plutôt des vignobles comme la Loire, comme le Jura, qui étaient entre guillemets des vignobles qui avaient probablement un peu moins pignon sur rue que d'autres, qui se sont installés là-dedans. Maintenant, globalement, un peu partout dans le vignoble en France, mais même dans les grands châteaux bordelais ou chez les grands vignerons de Bourgogne, il y a une réflexion autour du soufre. C'est de se dire, c'est pas l'idée d'aller matraquer les vins avec le soufre. Comme vous le disiez, se lever le lendemain matin avec une barre colossale, ça a été le cas, on est allé trop loin à un moment. Aujourd'hui, il y a plein de vignerons qui essayent de limiter au maximum les doses de sulfite, mais il en faut toujours un tout petit peu, notamment à la mise, pour stabiliser le vin.
Et donc, en fait, le vin nature, sa qualité, c'est d'être un aiguillon pour tous les autres vignerons, pour dire on met juste moins de soufre, pas forcément plus du tout, mais on en met moins. En fait, le vin nature influence la manière dont on fait le vin en général aujourd'hui.
Oui, mais comme souvent, en fait, les extrêmes finissent par nourrir un peu l'ensemble. Dans la cuisine, c'est de la même manière. On est allé trop loin à certains moments dans certaines choses. On a parlé de la fameuse cuisine moléculaire ou la cuisine à l'eau, tout ce qu'on fait. À chaque fois qu'il y a des extrêmes comme ça, finalement, il va en rester peut-être 5 ou 10% qui va nourrir l'ensemble. Et oui, bien sûr, aujourd'hui, l'idée des vins nature et la modération du soufre intéresse beaucoup, beaucoup de grands vignerons qui se disent, non, mais on n'est peut-être pas obligé de les blinder au soufre comme on l'a fait jusqu'à présent. Et donc, on baisse les niveaux et on essaie de réfléchir à comment faire pour que le vin tienne quand même debout.
Alors Olivier, c'est pas parce qu'on zoome aujourd'hui sur le phénomène du vin nature qu'on ne doit pas le rappeler, l'alcool se consomme avec modération, car si l'alcool n'est pas consommé avec modération, on sait ce qui arrive.
Maybe the best, can't forget, c'était les vacances de chevaux.
suis à jamais ta terre.
C'est ça, ouais. c'est ça, trop picolé. Un journaliste qui boit trop et c'est sa carrière qui prend l'eau. Quentin, aujourd'hui, pour évoquer le vin nature, vous avez joué la carte de l'audace, voire de la provoque, en vous rendant à Bordeaux.
Oui, dans cette ville nichée au cœur de la région viticole connue dans le monde entier, qu'est-ce qu'on en pense? Je sors de la gare Bordeaux-Saint-Jean et c'est déjà une lumière assez différente. Je chope le tram C, je passe la place de la Bourse et c'est au Quinconce que je descends.
Le vin nature. C'est très rigolo, ça.
Pourquoi c'est rigolo?
Donc, nature, c'est... on met pas crème de cassis, quoi, c'est ça, déjà? Parce que vous avez ici, il y a le kermédoquin. Donc, le kermédoquin, soi-disant, on met de la crème de cassis dans le vin.
Alors, non, le vin nature n'est pas l'inverse du kir, cet apéro que seuls les rédacteurs-chefs de plus de 47 ans commandent en arrivant chez Blériot. Vous me mettrez un kir, s'il vous plaît. Voilà. J'explique à Nicolas que c'est toute une façon de produire du vin. Et là, il se remémore, il a déjà essayé.
Un petit vin nature. Alors moi, en fait, les vins biologiques, j'ai du mal, entre guillemets, parce que je trouve le goût est vachement différent. Mais après, c'est la mode, c'est le temps, on parle de tout ça, quoi.
À ce moment précis, une jeune femme vient vers moi, c'est une auditrice d'Inter, et elle a un message pour nous.
Eh ben moi, je suis particulièrement fan de Mathieu Noël. Oh. Ah, mais je l'adore, vraiment, je l'adore. Parfois, je regarde même ses anciennes chroniques sur C'est à vous.
Bien sûr. Quand il était jeune.
Ouais, quand il était beau et jeune.
Ça partait bien, ça démarrait bien, ce son.
Je vous présente Emma.
Il faut couper les sons au bon moment pour votre animateur, pour le ménager.
Emma Mathieu, 24 ans. Elle a gagné droit de lire la pancarte Zoom Zoom Zen, quand même.
Le vin nature.
Vous dites nature?
Non, le vin nature. Ben, pas plus tard que vendredi, j'étais dans un bar vin nature, donc ça m'a coûté un bras.
Ah ouais, c'est cher.
Ah ouais, c'était très cher. 8 euros le verre de vin, ça m'a choqué. Bah, au-delà de la sensation, un verre de vin nature, on le boit pas n'importe où. Donc on est dans un certain bar. Peut-être que si on a un bon palais, on se rend compte qu'il est naturel. Mais moi, j'ai pas de palais. Quand je bois du vin, je bois du vin.
Voilà. Ouais, bah on a les Noël Zouz qu'on mérite, ouais, hein, c'est toujours pareil.
Ne touchez pas Emma.
Eric est un artiste peintre à Bordeaux. Il vient vers moi et nous parlons de l'agriculture biologique.
Agriculture biologique et biodynamique, c'est une façon de travailler le vin. Mais on refait pas la terre. La terre, elle a été, de façon quoi qu'il arrive, polluée depuis des années et des années. Donc effectivement, c'est une meilleure façon de travailler la terre. C'est une façon aussi de protéger les gens qui la travaillent. Et ça, c'est important. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont travaillé la vigne, ils ont attrapé des saloperies. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Là, on est dans une terre de vigne, de vin. Ouais. Comment c'est perçu? C'est arrivé de...
Beaucoup de résistance à Bordeaux, je crois, sur le changement.
Eh oui.
Beaucoup, beaucoup. Hein. Il y a des territoires qui se sont accaparés ça, dans la Loire, dans le Rhône, dans le sud de la France. Nous, ici, on résiste beaucoup à ça.
J'arrive à leur place de la comédie. Je longe l'Opéra National de Bordeaux, qui donne d'ailleurs à cette ville un côté carte postale assez remarquable, il faut l'avouer. Je m'enfonce dans le quartier Gambetta et ses ruelles pavées. Je vois cette cave à vin et je pousse la porte.
Bonjour, moi c'est Geoffroy, bienvenue au Pied-à-Terre. J'ai ouvert cette cave à vin avec mon frère il y a 5 ans, Pierre. On a ouvert ça à Bordeaux pour proposer tout type de vin.
Alors Geoffroy, ce débat autour du vin nature, ça l'agace.
Oui, je pars en croisade sur... cette guéguerre qu'il y a entre les vins nature qui seraient forcément en opposition avec les vins dits conventionnels et l'inverse aussi. Moi, les gens qui traversent la porte et qui me disent « je veux un vin nature » avant de me dire ce qu'ils attendent du vin, ça m'énerve. Et à l'opposé, les gens qui me disent ce qu'ils attendent et que je leur propose un vin qui est nature, qui vont me dire « ah non, 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 c'est nature, j'aime pas », ça m'énerve aussi. Je pense que notre métier, c'est d'être pédagogue, d'être le relais entre le vigneron et le consommateur, de casser les préjugés, les barrières qu'on a sur le vin.
Il m'explique que c'est pas si récent comme phénomène, mais il admet qu'on en parle de plus en plus car la consommation qui a évolué pour lui.
Et qui correspond aussi à l'attente d'une nouvelle consommation du vin, qui est une consommation beaucoup plus festive, beaucoup plus légère. Donc on est souvent sur des profils aromatiques de vins très fruités, très gourmands, très légers en tanin, très légers en matière, qui vont se boire plutôt facilement, qui correspondent voilà, à cette nouvelle attente du consommateur.
Bon, comme dirait Mathieu en bout de table avant de racheter un restaurant à Argentan, assez parlé, on déguste.
Bah, on parlait de vin du Sud. Nous, on travaille avec Esperanza, qui est un vin dans le Gard. On est sur de la Grenache, on est sur de la Syrah. C'est quelque chose où on va avoir un très léger passage sous bois, mais d'une vieille barrique qui vient juste assouplir et amener un peu plus de suavité au vin. Et on est vraiment sur ces vins... très aromatique, de fruits rouges surmûris, bien gourmands, avec un côté très velouté, sans matière, sans tanin. Et ça cartonne pour ces consommations d'apéro et oui, d'après-apéro.
Ou même pré-apéro, 16h29, c'est trop tôt ou c'est trop tard? Après tout, le vin en France, c'est dans notre nature.
Oui. Avec modération. Toujours. Avec modération. Toujours, Quentin, je vous le rappelle, j'ai l'impression que ça
bien,
vous échappe par moments.
Il est tout rouge.
Olivier Pouls, grand reporter à la Revue du Vin de France, est notre invité cet après-midi pour essayer de comprendre cette passion soudaine des Français pour le vin nature. On va parler du prix, mais là, je rebondis sur ce qu'on vient d'entendre dans le micro-trottoir. Il y a aussi cette notion que c'est finalement un vin idéal pour l'apéro parce que c'est léger, c'est pas tannique. C'est des vins faciles, en fait.
C'est un peu l'image qu'ils ont voulu ou qu'ils se donnent, une fois encore, hein, entendons-nous, sur l'idée de ce qu'est un vin nature. On a parfois un peu tendance à tout mélanger entre nature, bio, biodynamique, ça, tout ça sont des catégories qui sont bien différentes. Hein. Si on devait faire très simple, bio et biodynamique, ça concerne essentiellement la manière dont on va traiter la vigne et ensuite vinifier le vin avec un apport de soufre autorisé. Où les vins nature se détachent, c'est qu'eux, ils refusent notamment l'emploi de sulfite, mais l'emploi de tout autre intrant dans le vin. Donc ça va de la vigne, donc il faut au minimum que les vins soient cultivés en bio, en biodynamie.
Ensuite, un vin naturel est forcément en biodynamie?
Forcément, une fois encore, il y a encore pas de label officiel. Il y a pour l'instant des associations, on y adhère et puis on déclare qu'on est c'est plus de la confiance finalement et du déclaratif. On promet sur l'honneur que voilà, mais pour l'instant il y a encore rien d'extrêmement officiel. Mais oui, c'est vrai que c'est plutôt l'idée de faire des vins plus gourmands, plus accessibles. Mais il y a quelques très grands vins qui sont peu ou pas sulfités. Un très grand vigneron de Cornas, par exemple, qui fait des vins, certaines cuvées qui sont en vin nature, et qui sont des vins qui, bien conservés, peuvent se garder très longtemps, et qui n'ont pas des degrés alcooliques ou pas de couleur, des degrés alcooliques très bas, ou une couleur très, très, très légère. Là, je vous ai apporté un vin qui est un vin nature, puisque...
Et vous nous avez bluffé, parce que je n'aurais pas dit qu'il était nature, personnellement.
Et vous voyez, il y a de la structure, il y a des tanins, c'est un vin de Bordeaux, c'est la démonstration aussi que Bordeaux, qui est une région qui a été un peu lente, finalement, à se mettre...
On le disait, d'ailleurs, dans le micro-trottoir, les gens disaient qu'ils ont y allaient à reculons, quoi.
Ils y sont allés un peu à reculons, mais aujourd'hui, ils sont obligés, parce que il y a une demande. Alors, ça reste marginal, hein, je pense, la consommation de vin nature en France, c'est 3% du marché, c'est encore pas grand-chose. Mais, en tout cas, c'est très visible, notamment dans un certain nombre de villes, dans les quartiers un peu...
Bobo.
Oui, Bobo.
Bobo, voilà. Et donc ça, voilà, c'est une cuvée qui s'appelle CRS, qui est faite par une vigneronne, une femme, qui s'appelle Claire Villard-Lurton, qui a deux crus classés, qu'elle vinifie de manière tout à fait traditionnelle, non en vin nature, donc sulfité. Et puis là,
et à côté,
elle a isolé 2 hectares qui sont travaillés comme l'esprit d'un vin nature.
Mais du coup, est-ce que c'est des vins qui accompagnent moins les repas? Les vins nature.
Alors, c'est des vins qui accompagnent tout à fait la gastronomie quand ils sont, que ce soit des blancs ou des rouges, il n'y a strictement aucun problème. En revanche, c'est probablement des vins qui iront moins loin dans le temps, ça c'est une certitude. Oui. En tout cas, on prend beaucoup plus de risques à les laisser dans sa cave. Et puis surtout, c'est des vins qui doivent être soignés, d'abord être faits avec beaucoup, beaucoup de précision, et qui voyagent pas très bien. Donc, c'est presque, comme ils sont extrêmement sensibles, il faut les considérer comme des produits frais, comme des yaourts. C'est-à-dire que si vous faites voyager des vins nature, il faut les faire voyager dans des camion frigo à 12 degrés, parce qu'une fois encore, si vous mettez votre caisse dans la voiture et que vous remontez du sud de la France vers le nord, ça marche pas, comme vous le feriez pas avec un pack de yaourts.
Mais ça matche avec un repas quand même.
Mais ça matche tout à fait avec un repas quand c'est bien fait, bien sûr.
On continue à disséquer le succès du vin nature dans Zoom Zoom Zen avec un de ses plus fervents ambassadeurs, qui me disait d'ailleurs que désormais il ne boirait plus que du vin nature, c'est ce que tu me disais en antenne. Hein.
Vous êtes potes dans la vie,
oui.
On peut le dire.
Ah, on se connaît un peu, oui, c'est pour ça que je tutoie, c'est vrai. Olivier,
en attendant, quand tu viens à la maison, tu me demandes autre chose que du vin nature, mon coco. Hein.
Non, je suis très ouvert.
Ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'il demande, du pétrus comme d'hab?
Du Romanée Conti bio. Olivier Pouls reste avec nous pour arbitrer le Zoom Zoom Test, un quiz certainement assez goulayant aujourd'hui. C'est juste après ce titre qu'on adore tous, c'est Cyril Non, c'est Faced, Hiding Out in the Open, un autre style. Le vin nature, Eldorado ou guet-apens, c'est la thèse que je présenterai bientôt à la Sorbonne et c'est déjà le thème de Zoom Zoom Zen aujourd'hui. Et nous arrivons à un véritable tournant de l'émission. Notre invité, Olivier Pouls, a apporté une bouteille dont on taira l'étiquette, mais disons en gros que c'est pas un baron de l'Estac. Qui aura le privilège de la boire tout à l'heure? Qui au contraire devra se contenter de regarder l'autre la boire? La réponse nous attend au bout du Zoom Zoom Test. Un quiz qu'on ne va pas gâcher aujourd'hui en le consacrant au vin nature. Non, on va plutôt le consacrer au vrai vin. Manon, Quentin, vous allez devoir répondre sous le regard d'Olivier Pouls, ce qui équivaut à peu près à faire des jonques devant Mbappé. Attention, top! L'été, au Nikki Beach, il n'est pas rare de vous voir asperger vos habits du showbiz à grands coups de Jéroboam de Dom Pérignon. Chacun claque ses droits scam comme il l'entend, personne ne vous juge. Mais cette compétition à laquelle vous vous livrez, alors même que la plupart des Français galèrent avec l'inflation, puisque quand Manon commande un Mathusalem, Quentin réplique avec un Salman Hazard, Manon surenchérit avec un Balthazar et Quentin embraye sur un Nabucodonosor dans une spirale sans fin. Est-ce qu'au moins vous savez combien vous buvez? Classez-moi par ordre croissant les bouteilles suivantes.
Ouais, c'est dur.
Melchior, Mathusalem, Jéroboam et Salman Hazard.
Bon. Bah, je pense que vous les avez dit dans l'ordre.
Non.
Ça serait vachement retard.
Ça serait pratique.
Ça serait presque génial. Vous me prêtez un génie que je n'ai pas.
Oh, non. Redites-les, s'il vous plaît.
Bah oui, c'est ça.
Melchior, Mathusalem, Jéroboam, Salman Hazard.
Jéroboam, c'est le plus gros, non?
Non, c'est Hazard.
Salman Hazard, là?
Ouais, c'est le plus gros.
Alors,
on va faire un travail d'équipe maintenant. Voilà. Faisons un travail d'équipe. Pardon, on commence par le Melchior, elle s'étouffe.
Moi j'irais B, A, C, D.
B,
A, C, D.
Il est perdu dans ses
C, D. C'est absolument faux. Oh, bon. Absolument faux. On peut même conclure que vous êtes nul. Alors, Jéroboam, c'est 3 litres. C'est quasiment tout petit.
C'est le plus petit.
Ah, Mathusalem, 6 litres. Salman Hazard, 9 litres. Et Melchior, c'est vraiment pour les grosses soifs, puisqu'on est sur du 18 litres.
18.
C'est généralement après cette bouteille que Quentin s'écrit. Ce qui n'a aucun sens puisque vous êtes au Nikki Beach, je le rappelle, c'est dire si vous êtes rond. Attention, top! D'après vous, la plus grande bouteille de vin au monde est grande comment? Comme Quentin? Comme deux fois Quentin? Ou comme Wembanyama, le prodige français du basket, plus Quentin?
C'est dernier.
Non, bonne réponse de Manon Mariani. 4m17 de haut, vous n'avez même pas le temps de répondre. 1m21 de diamètre pour une contenance de 3000 litres de vin. Je n'ai pas poussé l'enquête jusqu'à savoir de quel vin il s'agissait. Je ne sais pas si Olivier, vous avez entendu parler de cette bouteille de 4 mètres.
Non, mais c'est ridicule.
Ça ne doit pas être du très bon vin. Oh. Attention, top. Vous le savez, notamment si vous avez déjà été invité à visiter la cave d'Olivier Pouls, certains vins peuvent valoir des fortunes. Mais selon vous, quel est à ce jour le vin le plus cher du monde? Le Pinot de Nice que Quentin, lui, nous a dégoté au Franprix l'autre jour.
Non, c'était dans le caviste de chez Cyril.
Oui, c'est vrai.
La Romanée Conti Grand Cru du domaine de la Romanée Conti Millésime 45 ou le Petrus 2000.
B.
C.
Non,
c'est
B.
Le Petrus.
B.
Ah oui.
Erreur d'Olivier Pouls.
Non, ah bon, c'est la Romanée Conti.
Non, tu vas voir pourquoi.
Ah. Moi, j'ai fait confiance à Olivier.
Alors voilà, il est tombé dans le piège bêtement. Même Olivier Pouls est tombé dans le piège. C'est une bonne réponse de qui
a... C'est moi.
C'est vous qui tombez par hasard, mais vous l'avez donné. Et oui, si vous avez un ami ou une amie qui aime le vin, pour son anniversaire, offrez-lui un Château Pétrus 2000. Mais attention, il y a un piège. Bah oui. Le radin aura tendance à acheter une bouteille lambda de Pétrus 2000 à seulement 5000 balles en moyenne. Mais le puriste, lui, pensera bien à demander à son caviste: attention, Maurice, tu me mets pas le Pétrus du tout venant, hein. Mets-moi bien la cuvée spéciale, tu vois laquelle? Le caviste voit laquelle? Vous, je sens que non.
Oui, moi, je
alors,
sais laquelle.
D'après
c'est
vous, pourquoi chut, tais-toi. Il va me niquer mon quiz. Je n'ai jamais invité d'amis dans
vous êtes en train d'insulter.
Alors, d'après vous, pourquoi cette bouteille de Pétrus 2000 dont je vous parle ne vaut-elle pas 5000, mais 1 million d'euros?
Des diams, ouais.
Parce qu'elle a passé 14 ans dans un fût en or massif? Parce qu'elle a passé 14 ans dans une cave spéciale au fond de l'océan? Ou parce qu'elle a passé 14 ans dans l'espace?
B, au fond de l'océan.
Ah ouais, bah ouais, j'allais dire les trois, mais n'en abusons pas.
C'est vrai qu'elle est vraiment voyagée.
Donnez une autre réponse. Donnez une autre réponse.
La C.
Oh oui, la C, oui, bravo Manon. Son nom complet, Pétrus 2000, cuvée de l'espace. L'occasion de relancer notre invitation à Thomas Pesquet. Thomas, si tu viens dans Zoom Zoom Zen, promis, Olivier Pouls nous dégote un Pétrus cuvée de l'espace, on se le fera ensemble, ça te rappellera la pesanteur. Enfin, top question en rafale. Combien y a-t-il de raisins en moyenne dans une bouteille de vin? 60, 300, 600.
600.
600 bonnes réponses. La phobie des étiquettes de vin est une maladie reconnue.
Vrai.
Vrai, elle a même un nom. L'œnosémiophobie. En 2012, non. Le champagne Veuve Poignée a fait un carton dans les bars gays parisiens.
Faux.
Vrai.
Ça, c'est vrai. C'est vrai.
Et qui se cachait derrière ce champagne chic? Patrick Jean-Marie Sébastien ou Jean-Marie Le Pen? Il a répondu avant. Pouls, je vais t'évacuer du studio Manu Militari. Oui, a évité également la cuvée rosée Jani, du nom de sa femme. Quelle célébrité a déclaré qu'il lui arrivait de boire jusqu'à 14 bouteilles de vin par jour?
Depardieu.
Je te sers un coup de pommard. Ça rime avec Brachman.
Bravo Manon Mariani. Olivier, c'est j'imagine quelqu'un qui vous inspire un immense respect.
À ce niveau-là.
Enfin, les amis, attention, top. Question calcul mental pour finir. Selon les derniers chiffres de la consommation d'alcool en France, combien faut-il de jours à Gérard Depardieu pour boire autant qu'un Français moyen en un an? 23 jours?
Oh, trop de calcul.
17 jours ou 4 jours?
4 jours.
4.
Bonne réponse de Quentin, oui, puisque les Français tournent en moyenne à 58 bouteilles par an. Nous avons une situation d'égalité. Je n'aime pas ça, Olivier, qui a gagné?
Je pense en tout cas que Gérard Depardieu est un peu mytho.
Oui,
je ne crois pas du tout qu'on puisse physiquement, humainement, ingérer 14 bouteilles de vin, même en commençant tôt le matin.
Et vous êtes bien placé pour
j'ai essayé,
savoir, vous avez testé les limites.
J'arrive à 12
bon,
et puis je bloque.
Tout le monde gagne aujourd'hui, super.
Super, salut.
Merci,
c'est l'école des fans. Olivier Pouls, expert vin et spiritueux, est toujours avec nous pour élucider le mystère du vin nature. Cidre amélioré pour les uns, précieux nectar digne de figurer à la carte des plus grands restaurants pour les autres. Qui a raison? J'aurais tendance à dire moi, mais je me tourne quand même vers vous, Olivier. Le vin nature, ça rejoint aussi le mouvement de la slow food, cette idée de mieux consommer, local, on disait tout à l'heure, de choisir des produits de meilleure qualité. Même si on ne l'aime pas, c'est intéressant au moins pour ça, le vin nature. C'est quand même, la démarche est intéressante.
Mais tout ce qui explore des pistes différentes, nouvelles, une fois encore, le vin nature, on n'a rien inventé. On a fait du vin nature.
On est revenu.
Oui, alors la difficulté, la réalité, c'est que le vin, en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Les Romains faisaient du vin, mais ils ne maîtrisaient pas du tout la manière dont s'opéraient les différentes fermentations. On sait qu'il y a deux fermentations pour faire du vin, la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique. Et ils la maîtrisaient tellement mal que leur vin était tellement mauvais qu'ils étaient obligés de rajouter dedans du miel, des épices, des aromates.
Ah oui, d'accord.
Oui, parce que c'était pas bon. Ouais, c'était vraiment pas bon. Et il faut attendre probablement le 18e ou 19e siècle pour arriver à avoir des vins qui soient à peu près stabilisés et à peu près bons en termes de goût de manière régulière. Et les vraies connaissances œnologiques, c'est le 20e siècle. Donc le vin, c'est de la science. Il y a quand même quelque chose. C'est de la chimie. Il faut comprendre ce qui se passe. Alors c'est vrai que parce qu'on comprend mieux les phénomènes aujourd'hui, on peut mieux les maîtriser et qu'on a pu faire et qu'on peut faire des vins nature très bien maîtrisés. Mais une fois encore, la destinée de jus de raisin, c'est pas de finir en vin sans si l'homme n'intervient pas et n'intervient pas de manière
ça
intelligente et maîtrisée.
Raisin.
Non, ça devient pas du jus de raisin. Ça fermente. Ça devient du vinaigre.
Ah oui,
prenez du jus de raisin, vous revenez trois semaines après, il y a du vinaigre. Donc pour éviter que ça n'en soit, pour que ça prennent le chemin de devenir du vin, il faut une vraie intervention humaine.
Il y a un engouement, on en parle depuis tout à l'heure pour le vin nature, mais il y a un flou aussi, c'est-à-dire on a dit il n'y a pas de label. On a l'impression que c'est flou comme
entre comme producteurs de vin dit nature, hein, ils se sont un peu écharpés, les uns disant que c'était juste une question de sulfite, les autres disaient mais on peut quand même en mettre un petit peu à la mise. Certains faisaient du vin sans sulfite, mais avaient des vignes traitées tout à fait en conventionnel, ou opéraient ce qu'on appelle des filtrations stériles, c'est-à-dire qu'on filtre le vin de manière complètement stérile, de manière à le dépouiller de toutes les bactéries qui pourraient se trouver dedans pour éviter qu'il y ait des déviances aromatiques. Est-ce que ça, c'est du vin nature? Voilà, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord.
Mais alors, vous parlez du passé, aujourd'hui on en est.
Aujourd'hui on en est qu'il y a, je crois qu'il y a deux associations qui regroupent autour de 200 vignerons dits nature, qui commencent à tomber d'accord sur une espèce de cahier des charges. Mais c'est pas encore validé, notamment au niveau de l'INAO.
Pardon, j'ai une question, mais le vin orange, c'est du vin nature? J'ai l'impression que tout le monde en boit en ce moment.
Surtout vous.
Oui. Ça n'a strictement rien à voir. Le vin orange, c'est du vin blanc fait comme du vin rouge. C'est-à-dire, c'est une méthode de vinification où on laisse en contact la peau du raisin avec le jus, de manière à extraire notamment des tanins, et forcément un petit peu de couleur, ce qui fait qu'il devient orange, mais ça n'a rien à voir avec du vin nature.
Vous écoutez France Inter, et l'heure, ma foi, est comme le vin nature. Certains disent qu'il est plus de 16h45, d'autres qu'il est moins. C'est un débat dans lequel je préfère rester neutre. Dans quelques instants, notre humoriste Yann Marguet, qui lui n'a pas de pudeur de gazelle sur le vin nature puisqu'il avale indifféremment tout ce qui titre plus de 12 degrés, viendra nous livrer son regard sur ce phénomène. Mais d'abord, pas besoin d'avoir l'heure exacte pour savoir qu'il est temps d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, qui sont vastes, c'est vrai. Mais heureusement, ici, on a Manon Mariani qui a l'art de nous guider directement vers ce qui est intéressant. Aujourd'hui, vous nous parlez de la fronde que mènent les États-Unis face aux entreprises de la tech chinoise.
Est-ce que TikTok sera banni des États-Unis? C'est la grande question qui agite les médias du monde entier depuis le début de l'année. Là-bas, l'application chinoise a déjà été bannie des campus américains, des agences fédérales et du Congrès. TikTok est jugé dangereux par les autorités américaines, une menace pour la sécurité nationale. Elles craignent que les données personnelles des 150 millions d'utilisateurs américains soient partagées au gouvernement chinois, qui aurait donc une mine d'or entre les mains. Et son PDG, Shou Zhechu, qui n'a pas été très rassurant à ce sujet. Il a été auditionné par les autorités américaines la semaine dernière pour défendre son application, histoire qu'elle évite d'être bannie complètement du pays. Durant cette audition, il a avoué qu'effectivement, des données d'utilisateurs américains transitent vers la Chine, ce qui n'a pas apaisé les esprits. Et c'est un vrai problème, car cette situation ne concerne pas que TikTok.
C'est-à-dire ?
Beaucoup d'entreprises de la tech chinoise ont peur de ne plus pouvoir s'exporter aux États-Unis. Et à juste titre, hein, quand on voit les propos que tient le directeur du FBI, Chris Wray.
Ces compagnies font tout ce que le gouvernement veut qu'elles fassent, comme leur donner nos informations ou servir d'outils au gouvernement chinois.
Voilà, la paranoïa est de sortie. Les US avaient déjà interdit la vente des marques de téléphonie chinoise Huawei et ZTE l'année dernière, et les mesures pourraient donc être encore plus drastiques en 2023, car au-delà de ces grosses entreprises, ce sont aussi les petites compagnies et les start-up chinoises qui seraient impactées. Elles craignent de ne plus pouvoir vendre leurs produits aux États-Unis, et c'est un vrai problème car c'est le seul marché de consommation au monde plus important que celui de la Chine. Et pour éviter de rentrer dans le viseur des autorités, certaines de ces entreprises décident de changer d'identité, comme le révèle le site Rest of the World. En gros, elles font tout pour masquer leurs racines chinoises. Elles déménagent par exemple leur siège social en Californie ou à New York. Elles embauchent des employés américains et stockent les données de leurs utilisateurs sur des serveurs non chinois. Elles deviennent donc 100% américaines. Dites-vous que certaines vont même jusqu'à changer de nom pour éviter d'être trop connoté. Même la marque géante de la fast fashion chinoise Shein a dû déménager son siège social à Singapour, vu qu'elle prévoit une introduction en bourse aux États-Unis cette année. C'était le meilleur signal à envoyer.
Il y a d'autres entreprises concernées?
Alors oui, mais difficile de savoir exactement lesquelles. Hein. Toutes celles qui parlent dans l'article de Rest of the World ont demandé à témoigner sous couvert d'anonymat, preuve qu'elles ont vraiment peur pour leur business. Mais ce n'est pas un secret, les entreprises qui sont dans le viseur des autorités américaines sont celles spécialisées en technologie, donc des caméras de surveillance, en passant par des drones ou encore celles qui investissent dans l'intelligence artificielle, des domaines dans lesquels les Chinois excellent et dont les États-Unis raffolent. Vous l'avez donc compris, derrière le mastodonte TikTok se joue le destin de beaucoup de petites entreprises qui ne connaissent pas encore la crise. Pour l'instant, elles passent donc sous les radars, mais jusqu'à quand ?
Merci Manon. Des liens avec la Chine qu'on essaye désormais de cacher. Voilà une chronique qui a dû intéresser notre invité Olivier Pouls, qui, cela dit, peut être assuré. Jamais, jamais je ne rappellerai ici ni qu'il a signé en 2019 la carte des vins de la compagnie Air China, ni combien il a pris en cash pour ça. Mais disons que c'est un contrat qu'on n'a pas fini de boire. Enfin, boire, je parle pour Cyril, moi je ne bois pas. Je me nourris d'amour, comme David Walters, Give Me Love sur Inter. Les mecs à montrer nos chimènes, pas ni hasard, y'a qui rendez-vous. T'as qu'à aider nous oublier, en bas la ligne, t'es nous qu'à quitter filet. Livre dans tête, tête dans les sacs, faut que vivre, qui c'est soit au fait, qui c'est soit au dit. Ça qu'il faut, c'est tout ça nous peut faire. Ça qu'il faut, c'est en tout ça nous qu'à quoi. Ça qu'il faut, c'est en love en douceur. Ça qu'il faut, vers les douvants c'est ouvert. Ça qu'il faut, c'est en love. Ça qu'il faut, c'est en douceur. Ça qu'il faut, c'est en love. Ça qu'il faut. Gimme, 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 gimme. Singing hallelujah, I did my corner, what they happen, this coming for summer. I be you want power, you want escape or holler. The people for the top, they not the listen, don't bother. Tick tock, time we for the wake up they are let reason, Charlie clear your eye top. You know be what we vote for, see we for the focus. Tricky, tricky politician, try to kill my mind. Hosanna, yami save us from Accra to Lagos. On and off electric, taking sugar from my neighbors. Confusion and chaos, corruption in the papers. Opia, no pia, so we won't no go break us. I never give me some love. All I need, all I need. I need to give me some love. Crédit œnologique accordé à une personne capable de boire deux pichets de vin turc et de s'exclamer c'est bon ça à l'issue de son spectacle l'autre jour au resto, je ne sais pas, disons pas beaucoup. Bonjour Yann Marguet.
Bonjour Mathieu, mieux que le débat de la carbonara avec ou sans crème, mieux que les controverses sur la cuisson de la viande, deux nouvelles factions de pète-couilles se livrent aujourd'hui un combat sans merci, les super pour et les maxi contre le vin nature. Oh là là. Non mais entre les deux, je vais vous dire, je ne sais pas qui m'emmerde le plus. C'est comme si on me disait tes hémorroïdes tu les préfères internes ou externes?
Oh non.
Bon, faut dire que tous les passionnés de vin, quels qu'ils soient, sont de base un peu fatigants, Mathieu. La passion du vin, je la reconnais. L'artisanat suprême, l'importance du terroir, la complexité dans la construction d'une saveur, tout ça est validé. Ceci dit, à moi qui ne m'y connais pas très bien, est-on obligé d'en faire systématiquement des caisses quand on me parle de vin? Caisse numéro 1. Vous verrez, on sent bien le goût du chêne. Non, je n'ai personnellement jamais goûté un chêne. Tant mieux pour vous si vous avez déjà mangé au moins une fois chaque arbre. À moi. Caisse numéro 2. On est sur un pinot noir de chez Thierry Puzelin. Qui est Thierry Buzelin. Suis-je censé le connaître? Suis-je censé connaître tous les vignerons du monde? Dans quel autre domaine de la vie me lâche-t-on autant de blases de mecs comme si c'était des potes alors que j'ai aucune foutre idée de qui c'est? Vin bio, ça veut dire quoi? Vin biographique? Je ne crois pas. Et enfin, caisse numéro 3, vous allez voir, c'est un vin qui est totalement bouleversant. Un vin bouleversant. Mais ne regarde jamais Sauvé Willy, mon gars. Tu vas crever, un vin bouleversant. À quand une pomme perturbante? Du foin fataliste, Mathieu. De la songe mitigée. Voilà. Évidemment que si ces gens qui nous chient un orchestre à chaque fois qu'ils débouchent une bouteille se mettent à se chamailler sur la façon de faire du vin, mais ça va prendre des proportions bibliques. Hein, les œnologues du mercredi après-midi, là. Enfin, même les vrais œnologues du reste. Hein. Je vais vous dire, moi, je me méfie des mots qui contiennent cette lettre bizarre, là. On dirait un E qui a une tumeur. Rien de bon ne peut sortir d'un mot qui contient un œnologue, un œdème, l'œcuménisme, la sœur de Quentin. Que de la saloperie.
J'ai pas de sœur.
Violence tout texte. Venus nulle part. Ça te ressemble tellement pas.
Je n'ai pas de sœur.
Mais bref, passionnés comme amateurs ne sont pas d'accord entre eux. En gros, la biodynamie versus la méthode classique, c'est un peu Poudlard contre Monsanto, quoi. D'un côté, des espèces de mages qui couchent avec leurs vignes et qui leur récitent des « Je vous salue Marie » en ASMR pour en sortir le vin le plus naturel possible. Et de l'autre, des vieux mecs de droite qui paniquent dès qu'on fait pas comme ils ont appris et surtout qu'on redonne un peu de latitude à la nature. Ou alors, eux, la nature, ah, comment vous dire, ils font pas confiance. Hein. Ah ouais, grosse humilité, les mecs. Hein. On se demande comment la planète a tenu 4 milliards et demi d'années sans eux. Et au milieu d'eux, bah, il y a nous, quoi, dont le principal problème est généralement de dire « Oh bah dis donc, il est bon celui-là, chérie, faudra qu'on en retrouve !» Et de pas en retrouver. Mais si, il y avait sur l'étiquette, tu sais, un sanglier avec un petit chapeau. Moi, j'avoue qu'avant de lire sur le sujet, je savais même pas qu'il y avait un conflit. Hein. J'allais dans mes petits restos tenus par ces mecs qui ont tous un bleu de travail vintage, une casquette de campeur et un pantalon en toile japonaise émouvante. Et je buvais ce qui me filait après leur avoir donné mes critères ultra pointus, à savoir léger et fruité. Alors, vous comprenez que je me posais pas trop la question de la teneur en sulfite. Surtout que contrairement à la place qu'elle occupe dans le débat public, la viticulture naturelle ou en biodynamie est finalement assez peu pratiquée. Hein. C'est un peu comme si les époux boutins passaient leur temps à parler de sodomie, alors que bon, c'est pas un point crucial de leur existence. Quoi. Qu'ils arrivent déjà à se caler un missionnaire, on en repose. Et tout ça pour dire quoi au final? Que les vins vivants, ça sent le cul de musaraigne. Qu'enterrer des cornes de vache fourrées à la bouse, c'est des trucs de charlatans. Écoutez, j'ai envie de vous dire, si enterrer de la merde au pied des vignes, ça permet d'en avoir moins dans le vin qu'on boit, est-ce que c'est pas une bonne chose au final?
Merci beaucoup Yann Marguet, on vous retrouve la semaine prochaine évidemment dans Zoom Zoom Zen. Olivier Pouls, vous, on vous retrouve pas la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, sinon ça voudrait dire qu'on vous a débauché d'Europe 1 et je me ferai engueuler. Plus certainement, on vous retrouvera dans ma cuisine très bientôt autour d'une bouteille de vin nature, tous ensemble, on l'aura compris. Est-ce qu'il y a un vin nature qui vaut le coup? On peut reciter celui que vous avez apporté qui est très bon et ouais, qui est très...
C'est la cuvée Cérès de Claire Villard-Lurton, c'est un vin nature du Médoc, donc de la région bordelaise.
Merci encore mon cher Olivier Pouls, je rappelle que vous êtes grand reporter à la Revue du Vin de France. Merci à tous les amis, Quentin Lui, Cyril Lacarrière, Manon Mariani, vous embrosserez votre pré-mec pour nous. Étienne Bertin était à la réalisation, Maxime Goudard à la technique. On salue Raphaël Canzan, notre stagiaire, Amel Caldi et Alexia Lacour, nos attachés de production. Alexia dont c'est l'anniversaire demain, 45 ans déjà, c'est beau. Pour l'occasion, Yann Marguet va vous l'offrir avec un peu d'avance. Joyeux anniversaire. Allez. À la glotte. Oh, la bougie s'éteint, c'est magnifique.
Oh là là, c'est bon.
Jusqu'au bout, Alexia a porté 45 ans. Zoom zoom zen vin nature, c'est fini. On se retrouve demain pour une dégustation exceptionnelle. Que des grands crus de nos meilleures émissions. En œnologie, on appelle ça une verticale. En radio, un best-of. Et puis lundi... Lundi.
Ah bah lundi, je sais pas, moi j'allais dire que j'étais à la scène libre ce soir.
Mais on s'en fout, tu m'as coupé dans ma désannonce pour dire que t'étais à la scène libre. Ouais. Mais tout le monde le sait, toute
dernier
la France
soir,
le sait.
La dernière.
Dernier soir, dernière avant le Stade de France à la rentrée. Merci Anne Marguet, merci à tous. On se retrouve donc demain en best-of. Et puis vous l'aurez compris, lundi en direct.